VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 18 mai 2022. En direct de Washington, Idrissa Seboudia
et Claire Moragibour.
Pour commencer, les titres.
Au Tchad, un sixième leader de l'opposition a été arrêté hier suite à la manifestation violente de samedi contre la France.
Kinshasa juge prématuré de parler de retrait des troupes ougandaises présentes en RDC pour combattre les rebelles ADF après des déclarations de responsables militaires à Kampala.
Le gouvernement de Tripoli a mis en échec mardi une tentative de le déloger par un premier ministre rival soutenu par l'homme fort de l'Est, Khalifa Haftar.
Au Burkina Faso, l'espoir s'amenuise pour 8 mineurs portés disparus sous terre depuis un mois. Ce sera en seconde partie de cette édition avec Lamine Traoré.
Le président américain Joe Biden dénonce un acte de terrorisme et attaque le poison du suprémacisme blanc après la tuerie raciste de Buffalo dans l'état de New York.
En Ukraine, la guerre entre dans une phase prolongée selon le ministre de la Défense de Kiev. Ne manquez pas notre page sport et la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Au Tchad, un sixième responsable de l'opposition a été arrêté hier après de violentes manifestations samedi contre la France. Opposants et syndicalistes appellent à leur libération pendant que le gouvernement dit s'en remettre à la justice. Mohamedou Mfa.
L'avocat Max Luanga, coordinateur de la principale coalition de l'opposition Wakitama, a été interpellé suite à la marche du 14 mai 2022, transformée en manifestation violente. Il est l'un des organisateurs de la dite marche, indique la police sur sa page Facebook. Deux véhicules sont venus le prendre chez sa mère pour le conduire dans une direction inconnue, a confirmé Michel Barka, porte-parole de Wakitama. Lundi, 5 cadres de l'opposition ont déjà été inculpés d'attroupement ayant causé des troubles à l'ordre public, atteinte à l'intégrité corporelle de personnes, incendies et destruction de biens. Ils ont été mis sous mandat de dépôt et incarcérés à la maison d'arrêt de Klesoum dans la capitale. L'opposition politique, les syndicats et les groupes armés demandent leur libération immédiate. Wakitama considère qu'ils ont été arrêtés à tort pour des actes de vandalisme commis par d'autres en marge ou après la manifestation et a exigé leur libération. Le gouvernement appelle pour sa part, la justice a fait son travail dans une procédure judiciaire classique. Une situation qui vient encore retarder le dialogue national dit inclusif qui devait commencer ce mois-ci mais a été reporté sine die.
Nous reviendrons sur le Tchad en seconde partie de cette édition avec André Komadjingar.
Le gouvernement de Kinshasa a jugé mardi soir prématuré un retrait des troupes ougandaises présentes dans l'est de la RDC dans le cadre d'une opération conjointe contre les rebelles ADF, soulignant qu'une telle décision revenait aux chefs des deux États. Des militaires ougandais avaient dans la journée dit que ces forces ougandaises doivent se retirer le 31 mai, sauf nouvel accord entre les deux pays. Les précisions de Jenny Kapumbu-Villa.
L'opération Shujaa cessera officiellement dans environ 2 semaines. Elle devrait durer 6 mois, a écrit sur Twitter le chef de l'armée de terre ougandaise, le général Muhoozi Kainerugaba, utilisant le nom de code de cette opération qui signifie « celui qui est fort en Swahili ». Le ministre ougandais de la Défense, Vincent Shempija, a confirmé que l'accord avec la RDC se termine le 31 mai. À moins que je reçoive d'autres instructions de notre commandant en chef, je vais retirer toutes nos troupes dans 2 semaines, ajoute le général, qui est aussi le fils du président Museveni. Dans un autre tweet, il précise que pour être clair, l'opération Shujaa peut se poursuivre pendant 6 mois encore si les présidents des deux pays décident de la prolonger. L'Ouganda a déployé depuis le 1er décembre des soldats dans l'est de la RDC dans le cadre d'une opération militaire avec l'armée congolaise contre les rebelles des forces démocratiques alliées ADF. Aucun détail sur le nombre de troupes engagées et la durée de la mission n'ont été révélés.
Le chef du gouvernement libyen, soutenu par le maréchal Khalifa Haftar, s'est retiré hier mardi de la capitale Tripoli après avoir tenté de déloger l'exécutif rival en place après des heures de combat entre groupes armés. Nous faisons le point avec Abdourahmane Dia.
Après plusieurs heures de combat, le service de presse de Fatih Bachaga a indiqué dans un communiqué que ce dernier et ses ministres avaient quitté Tripoli pour préserver la sécurité des citoyens. Investi par le Parlement en mars, Bachaga entendait prendre ses fonctions à Tripoli en dépit du refus de l'exécutif actuel, dirigé par Abdelhamid Debaïba, de céder le pouvoir avant la tenue d'élections. Le scrutin initialement prévu en décembre a été reporté sine die. Le gouvernement Debaïba a dénoncé dans un communiqué une tentative désespérée de semer la peur et le désordre parmi les habitants, exhortant la communauté internationale à condamner ces agissements. Ces affrontements sont d'une ampleur sans précédent à Tripoli depuis l'échec en juin 2020 de la tentative du maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est, de s'emparer de la capitale par la force. Selon des médias libyens, le départ de Bachaga de la capitale a été décidé lors d'une médiation menée par une brigade de l'armée loyale au gouvernement de Tripoli pour mettre fin au combat.
Le Maroc a supprimé l'obligation du test PCR pour entrer sur son territoire afin de favoriser le retour des touristes étrangers et soutenir un secteur vital pour l'économie nationale, a indiqué mardi soir le bureau du Premier ministre. Cette décision est effective immédiatement. En revanche, le pass sanitaire reste obligatoire pour accéder au territoire marocain.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a déclaré mardi que la tuerie raciste de Buffalo était un acte de terrorisme et a dénoncé le poison de la théorie du suprémacisme blanc. Ceux qui prétendent aimer l'Amérique ont donné trop d'oxygène à la haine et à la peur, a-t-il dit lors d'une visite dans cette ville de l'État de New York où 10 personnes africaines-américaines ont été tuées samedi.
L'attaque est le fait d'un tenant de la suprématie blanche, adepte de théories complotistes comme celle du grand remplacement. La thèse aux origines néo-nazies de ce grand remplacement prétend que des vagues d'immigration orchestrées par les élites politiques vont peu à peu remplacer la population blanche.
Aux États-Unis, face à la pénurie de lait pour bébés, le géant suisse de l'alimentation Nestlé va acheminer par avion du lait pour enfants depuis la Suisse et les Pays-Bas. Nous faisons le point avec Rosine Munezero.
Le groupe suisse Nestlé va exporter spécifiquement deux marques de lait hypoallergénique pour répondre à la pénurie de lait pour bébés aux États-Unis. Ces deux produits viennent habituellement des Pays-Bas et de la Suisse. Ce manque de lait pour bébés est un stress supplémentaire pour les parents dont les enfants ne supportent pas les protéines de lait de vache. Initialement causé par des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement et par un manque de main-d'œuvre, la pénurie s'est aggravée lorsqu'en février, une usine du fabricant Abbott dans le Michigan a fermé après un rappel de produits soupçonnés d'avoir provoqué la mort de deux bébés. La Maison-Blanche dit être en communication continue avec les quatre principaux fabricants, dont Nestlé, mais aussi Reckitt, Abbott et Perrigo, pour identifier les obstacles au plan de transport, de logistique et des fournisseurs pour pouvoir augmenter la production et garantir rapidement l'acheminement des produits chez les détaillants. Cette pénurie de lait a même pris une tournure politique car les Républicains tirent à boulet rouge sur la Maison-Blanche.
L'opération d'évacuation des derniers soldats ukrainiens retranchés dans la ville stratégique de Mariupol se poursuit ce mercredi, a affirmé, sans en préciser le nombre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur son site internet.
Hier, Moscou a annoncé la reddition de 265 soldats ukrainiens retranchés dans l'aciérie Azovstal, l'ultime poche de résistance à Mariupol, face à l'armée russe qui a effectué une nouvelle frappe meurtrière au nord de Kiev. Également ouverture aujourd'hui dans la capitale ukrainienne du premier procès d'un soldat russe pour crime de guerre depuis l'invasion du pays.
Et les États-Unis ont annoncé mardi la création d'un observatoire du conflit doté initialement de 6 millions de dollars pour recueillir, analyser et partager largement les preuves des crimes de guerre qu'ils imputent à la Russie en Ukraine. La Minute Éco, Rosine Munezero.
Au Cameroun, l'Office national du cacao et du café vient d'organiser à Kribi, cité balnéaire dans le sud du pays, un atelier de formation des maîtres d'hôtel à la préparation du café local. Selon l'agence Ecofin, cette initiative participe de la promotion du café camerounais qui n'est pas encore très consommé dans le pays. Le directeur général de l'office, Michael Domping, indique que le café camerounais est l'un des meilleurs au monde et les Camerounais devaient être les premiers à le savourer. Des centaines de milliers de tonnes de blé étaient bloquées hier dans un grand port indien en raison de l'interdiction d'exporter la céréale annoncée ce week-end par New Delhi, qui a invoqué la forte inflation et la sécurité alimentaire. Les ministres de l'agriculture du G7 ont aussitôt critiqué la décision indienne, craignant de voir s'aggraver la crise des matières premières. L'Inde affirme que son interdiction est destinée à assurer la sécurité alimentaire du pays, qui compte 1,4 milliard d'habitants. Le gouvernement américain a promis de combler en 5 ans le manque de logements qui, exacerbé par la forte demande pendant la pandémie, a fait flamber les prix d'achat et de location, pénalisant notamment les Américains aux revenus faibles et moyens. Le plan doit aider à construire des maisons et appartements, notamment en encourageant une plus forte densité dans certaines régions et ainsi détendre la pression sur les prix.
Merci Rosine. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le président sénégalais Macky Sall soutient son compatriote, le footballeur Idrissa Gana Gueye.
Le chef d'État sénégalais a affirmé dans un message à ses tuteurs soutenir le joueur du Paris Saint-Germain et demander le respect des convictions religieuses du footballeur après son absence lors de la journée dédiée à la lutte contre l'homophobie. Idrissa Gana Gueye est visé par des critiques en France après le refus qui lui est prêté de s'associer à la lutte contre l'homophobie et d'arborer un maillot arc-en-ciel. Comme l'année dernière, le joueur du Paris Saint-Germain n'a pas joué samedi lors de la journée dédiée à la lutte contre l'homophobie. Une nouvelle défection qui lui a attiré des critiques en France, mais aussi des soutiens dans son pays, le Sénégal. C'est le cas de ces Dakarois interrogés par l'AFP dans les rues de la capitale sénégalaise.
Gana Gueye est d'origine musulmane. Dans un pays à 80% musulman, il a le droit de respecter ses principes. C'est tout. On est dans un pays démocrate. Il n'a pas signé pour porter un maillot gay et faire l'apologie de l'homosexualité. Ce que l'Occident veut imposer au continent africain, ce ne sont pas les mêmes réalités. Je vis dans mon pays d'adoption en France depuis 1988. Mais cela ne passera jamais dans un pays comme le Sénégal.
Ils prônent leur liberté d'expression, leur liberté de choix. Il faudrait qu'ils comprennent aussi qu'il y a d'autres gens qui ne les jugent pas, qui acceptent de les côtoyer, mais qui n'adhèrent pas à leur philosophie. C'est une question de liberté, que chacun respecte l'autre et les choses seront assez simples.
São Tomé et Principe exclus de la phase de groupe des éliminatoires de la CAN 2023.
L'équipe de São Tomé et Principe est accusée d'avoir enfreint le règlement COVID-19 de la CAF en alliant un joueur inéligible lors du match du 24 mars 2022 entre Maurice et São Tomé lors des éliminatoires à la CAN 2023, déclare l'instance africaine du ballon rond. La CAF explique que le joueur concerné ne s'est pas soumis au test PCR obligatoire d'avant-match et n'a pas fourni aux officiels un résultat du test PCR effectué dans la fenêtre des 72 heures requise pour participer au match. São Tomé et Principe a donc été disqualifié par la CAF et devra en outre s'acquitter d'une amende de $10 000. Les São Toméens avaient pourtant arraché leur qualification sur le terrain en battant l'île Maurice lors du tour préliminaire 1-0 à l'aller, 3-3 au retour. Cette disqualification fait l'affaire de l'île Maurice qui est repêchée pour rejoindre la Guinée-Bissau, la Sierra Leone et le Nigeria dans le groupe A.
Cyclisme avec l'exploit hier de l'Érythréen Binyam Girmay au Tour d'Italie.
Oui, l'Érythréen de l'équipe belge Intermarché a continué à écrire l'histoire en devenant hier à Jessy le premier coureur africain noir vainqueur d'étape dans un grand tour. Binyam Girmay a devancé au sprint le néerlandais Mathieu van der Poel qui a levé le pouce en franchissant la ligne pour saluer la performance du jeune africain. Binyam Girmay, 22 ans, participe pour la première fois de sa carrière au Giro. Professionnel depuis 2020, il compte 8 victoires à son palmarès, dont 3 pour la seule année en cours. Fin mars, il est devenu le premier Africain vainqueur d'une classique. Mauvaise nouvelle par contre pour l'Érythréen qui s'est blessé à l'œil sur le podium et n'est pas sûr de continuer le Giro. La 11e étape se court aujourd'hui et est longue de 203 km.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, des leaders de la société civile et de la coordination des actions citoyennes Wakitama ont été arrêtés ce week-end après une marche pour dénoncer le soutien de la France à la junte au pouvoir. Puis l'avocat et porte-parole de la coalition Wakitama a été arrêté hier. Les avocats du barreau ont décidé de cesser les activités sur toute l'étendue du territoire pour exiger leur libération. Le point avec notre correspondant N'Djamena, André Kotmadjingar.
La manifestation a été d'abord autorisée par les autorités de transition, mais par la suite, elle a tourné à l'émeute. Environ 7 stations-service de marque française ont été saccagées par des éléments qui ont échappé au contrôle de la police.
Nul n'a le droit de saccager les moindres biens appartenant à un paisible citoyen.
Le président du conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby, s'est senti obligé de faire une sortie médiatique.
Nul n'a également le droit de porter préjudice aux avoirs des étrangers qui vivent légalement au Tchad, ni à ceux des pays amis et frères qui ont fait le choix d'investir dans notre pays.
5 leaders de la société civile, dont un avocat au barreau du Tchad, sont inculpés et placés sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de N'Djamena. Hier, le porte-parole de la coalition Wakitama, maître Max Loalngar, initiateur de cette marche, a été appréhendé au domicile familial par des hommes habillés en tenue civile pour une destination inconnue d'après sa sœur aînée, Patricia Loalngar.
Ils sont venus à bord de 2 véhicules. Ils ont foncé sur la maison du grand frère. Avec lui, ils étaient au salon. Ils se sont jetés sur la maison pour aller les prendre dedans là-bas. Ils l'ont menotté et ils sortaient avec lui sans nous montrer même un mandat d'arrêt. Maintenant, nous ne savons pas à quelle destination. Parce que c'est des gens civils, mais ils sont armés.
Maître Max Loalngar serait gardé aux renseignements généraux. L'ordre des avocats au barreau du Tchad décide d'observer un arrêt de travail sur l'ensemble du territoire national pour exiger la libération de leurs collègues et les autres détenus pour vice des procédures.
Le barreau du Tchad a décidé de cesser toutes les audiences dès le mercredi 18 mai 2022 et ce jusqu'à libération des 2 avocats et des autres personnes placées sous mandat.
Le bâtonnier Maître Laguerre Ndjerandi Diangro, président du conseil de l'ordre des avocats.
Le barreau du Tchad rappelle le caractère personnel de la faute en matière pénale, le sacro-saint principe de la présomption d'innocence, mais aussi le respect de la légalité qui doit conduire à la détermination des éléments constitutifs de la commission de l'infraction.
Le président du parti Les Transformateurs, Dr Succès Masra, estime que le sentiment anti-français a été nourri par le défunt maréchal en disant aux Tchadiens que c'est la France qui l'a imposé à la tête du Tchad en modifiant la constitution, doublée par l'incompréhension sur l'attitude initiale de la France face à la junte au pouvoir. Toutefois, il appelle le peuple tchadien de ne pas s'en prendre aux drapeaux et aux entreprises françaises.
Je comprends la colère de cette jeunesse qui l'exprime à sa manière, qui veut le changement, mais je note aussi que tout cela a été organisé sous le regard bienveillant de la police qui a laissé les casses avoir lieu pour nous. Notre ennemi, c'est l'injustice. D'où qu'elle vienne, elle doit être combattue. Mais indexer un peuple, une ethnie ou un pays ne peut pas être le carburant d'un véritable projet de société pour l'avenir du Tchad.
Il demande aux organisations continentales, à la junte au pouvoir et à la France de tirer les leçons de ces événements. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Burkina Faso, c'est un coup dur pour les familles des 8 mineurs piégés dans la mine souterraine de Perkoa depuis plus d'un mois. Le gouvernement leur a annoncé hier qu'il n'a trouvé personne dans la deuxième chambre de refuge qui suscitait tant d'espoir. L'émotion était vive hier à la cellule de crise installée à Réo, à une 15aine de kilomètres de Perkoa. Notre correspondant Lamine Traoré était sur place. Voici son reportage.
Ici à Réo, nous sommes au Haut Commissariat. Les familles attendent le gouvernement pour une annonce. L'atmosphère est lourde et pesante. Les visages sont crispés d'angoisse. Les familles savaient que les équipes de sauvetage ont atteint la deuxième chambre de refuge, la chambre de tous les espoirs, mais elle était vide.
La chambre de refuge a été ouverte devant nous. L'homme propose et Dieu dispose.
Jean-Alphonse Sommé, ministre des Mines.
Malgré toutes nos incantations, toutes nos prières, nous avons trouvé une chambre de refuge, vivre vide de tout être humain. C'est une information cruelle que nous portons en nous-mêmes d'abord et que nous avons apporté donc aux parents des victimes. Le travail de pompage n'a pas cessé. Quand bien même on a ouvert la chambre de refuge et qu'on n'a pas trouvé nos frères, le travail c'est non-stop. Et non-stop jusqu'à vider complètement la mine de tout ce qu'elle contient, ce qu'elle renferme comme liquide, comme eau. Nous avons atteint une étape aujourd'hui où tous nos espoirs étaient fondés sur la chambre de refuge.
C'est difficile et intenable pour les familles. Antoine Bama, porte-parole des familles des victimes.
Oh, c'est pas du tout facile, hein. C'est une déception. Mais bon, on va continuer toujours dans la prière et espérons vraiment avoir des informations sur nos frères là. Sinon, ce n'est pas du tout facile. C'est une déception. On a toujours espoir, selon ce que les techniciens disent. On va toujours garder espoir et espérer qu'on puisse, en tout cas, dans les jours à venir, là, avoir en tout cas des informations sur tout ce que Dieu fait. Bon, l'essentiel, c'est vraiment de retrouver nos frères.
Jonas Yen a conduit une délégation de l'ITU, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, une structure chargée de promouvoir la bonne gouvernance dans les industries extractives. C'est la même déception.
Je dois dire que c'est avec un peu de déception que nous avons eu la nouvelle de constater que la chambre qu'on a pu ouvrir est vide. Et comme le gouvernement l'a dit, et nous avons pu le constater, les équipes sont en train d'être renforcées pour poursuivre les recherches. Mais je dois vous dire que c'est quand même... avec déception, parce que tous nos espoirs reposaient sur cette chambre.
C'est un coup dur pour les familles des 8 mineurs, dont 6 Burkinabés, un Tanzanien et un Zambien. Le gouvernement rassure que les opérations de sauvetage vont se poursuivre. Les familles, à défaut de les retrouver vivants, espèrent au moins pouvoir récupérer leur corps pour leur offrir une sépulture plus digne que de rester ensevelis à quelques 500 mètres sous terre. Lamine Traoré, Rio, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'avenir du G5 Sahel après la sortie du Mali. Les autorités de transition mettent en cause une instrumentalisation par un État extra-régional empêchant le Mali d'assurer la présidence tournante du G5. Cette organisation régionale de lutte contre le terrorisme était déjà confrontée à de sérieux problèmes opérationnels et de financement. Le G5 Sahel pourra-t-il survivre après le départ du Mali ? Quelle approche de coopération dans la lutte contre le terrorisme au Sahel ? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voafrique.com.
Au Cameroun, la discorde persiste entre le gouvernement et les habitants du village Pungo Aviation, riverain de l'aéroport de Kribi dans le sud à environ 300 km de Yaoundé. Les populations de ce village exproprié en 1998 sans avoir été indemnisé contestent les travaux en cours pour une barrière autour de l'espace aéroportuaire. Des travaux qui les privent actuellement de terres cultivables, en plus d'avoir détruit leurs biens. Notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Juntap, s'est rendu sur place. Son reportage.
Les populations du village Pungu Aviation ont décidé de saisir le Premier ministre pour dénoncer les travaux de construction de la barrière de l'aéroport de Kribi qui s'étend sur 125 hectares. Nicolas Sabongué est un sexagénaire et notable du village Pungu Aviation.
Quand les travaux de l'aéroport ont commencé, on a détruit 1,5 hectare de palmiers. Nous avons fait une doléance au ministère de la Défense. Ils ont listé tous les gens qui ont été impactés. On devait nous dédommager jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, les travaux sont revenus. On ne nous a même pas consultés. On sait seulement, on voit seulement les gens en train de faire la barrière. Nous sommes un village sans terre. On se plaint de temps, de tous les temps, et on n'a jamais eu de réponse.
Dans sa cuisine en plein air, Eugénie Seconde Lana, 66 ans, a aussi perdu un champ vivrier.
C'est ce jour-là que j'étais au champ, je vois seulement un engin qui vient. Il a seulement tourné mon dos. On ne sait à qui aller demander. Les enfants n'ont pas à manger. On vient dévaster. On ne nous avertit pas. On peut faire quoi ici derrière la maison et avoir de quoi manger.
Rose Nassimantonga est conseillère municipale de la commune de la Lekoundje, dont le village Pungu Aviation dépend sur le plan administratif. Elle est native de ce village.
La famille royale ne peut pas rester sans champ. Son champ est son bureau. Il faut que l'État nous avise déjà de ce que deviendra notre village, que chacune commence déjà à savoir sur quel pied danser.
Selon une source à la préfecture de Kribi, le village Pongo Aviation est appelé à disparaître au profit des activités de l'aéroport de Kribi. 200 hectares de ce village ont été déclarés domaine d'utilité publique depuis l'an dernier. Hervé César Bimpan, résident du village Pongo Aviation.
Non seulement il n'y a pas d'indemnisation, mais il n'y a même pas de décret. À ma connaissance, quand un espace est déclaré d'utilité publique, il y a un document qui vous est délivré. Mais on n'a jamais eu de document.
Selon les experts du droit foncier, les procédures relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique sont clairement définies par la loi. Guy Lebrun Ambomo, juriste.
Toute personne qui était établie, qui est établie au moment où l'acte de déclaration d'utilité publique est pris, doit être indemnisée pour tout ce qu'il a en termes de mise en valeur. Il y a les champs, il y a les maisons, les constructions, il y a les terrains nus, mais qui ont un titre foncier.
Le 12 mai dernier, les représentants de la préfecture de Kribi et de la Direction générale de l'autorité aéronautique ont rencontré les populations du village Pongo Aviation. À l'occasion, la représentante du préfet de l'Océan a fait savoir, je cite, « L'État ne peut pas occuper les terres des gens et les déplacer sans rien leur donner ». Fin de citation. Emmanuel Juntap, de retour de Pongo Aviation, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Le Togo fait la promotion de l'art de la rue à travers le festival Rendez-vous chez nous. Il s'agit d'un concept qui allie spectacle et formation avec pour objectif de valoriser les arts de la rue. Un reportage de notre correspondante à Lomé, Amen Elodie.
Des échassiers, des danseurs, des mascottes qui paradent dans les rues de Lomé dans des costumes colorés et une ambiance qui n'a rien à envier au carnaval de Rio de Janeiro. Ce festival destiné aux arts de la rue est inédit au Togo. Dénommé « Rendez-vous chez nous au Togo », l'événement se veut une réponse mesurée au manque d'événements artistiques dans les rues de ce pays. Gilbert Agbevide, le promoteur du festival.
Rendez-vous chez nous Togo, c'est un festival de rue. Ça parle de tout ce qui est art de rue. Ça parle de la démocratisation de l'art de rue. Kadam Kadam, ça fait quand même 25 ans qu'on existe. On a fait pas mal de projets en termes de développement, en termes de formation, en termes de professionnalisation. Et aujourd'hui, le secteur qui nous intéresse un peu, c'est ces artistes de rue qui sont laissés pour compte. Parce qu'il n'y a pas un événement qui valorise leur création.
Créé en 2010 par le Burkinabé Boniface Kagame, Améga, Rendez-vous chez nous est une rencontre culturelle qui sillonne les villages d'Afrique pour diffuser ses créations partout dans le monde. Comme l'explique Boniface Kagamega, l'ambition est de rapprocher l'art des populations.
C'est le retour en fait à nos traditions, à être un peu plus proche aussi de nos populations parce que en tant qu'artiste, en 2001, 2002, 2003, je me suis retrouvé plus à jouer dans les instituts français, autour de 17 pays, dans des salles en Europe. Et c'était pas chez moi en fait, c'était comment permettre de ramener l'art et la culture au plus près de populations dans les villages, dans les quartiers. Cette ambiance de rue, c'est notre lieu de vie, donc j'ai dit rendez-vous chez nous.
Outre les spectacles, des ateliers et formations ont meublé les activités, entre autres avec des ateliers de confection de masques et mascottes, de danse et percussion, et aussi de communication et relations presse. Canou Delphine est comédienne. Elle a été formée sur comment communiquer sur ses œuvres en tant qu'artiste.
La communication, nous artistes, nous avons besoin pour nous faire connaître, pour faire connaître nos œuvres, pour exister. Donc si on ne communique pas sur nos œuvres, et je ne crois pas qu'on sera connu sur notre territoire et ailleurs.
Le festival Rendez-vous chez nous au Togo, c'est aussi des spectacles de contes, de danse, de percussion, de slam, de musique et autres. Amen à Simon, Lomé pour la VOA.
C'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia et Claire Morin-Gibourg. À la mise en onde, Lionel Ronanira Gaïma et à la console, John Walker. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.